Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour une soirée différente des soirées que nous organisons habituellement. C'est une soirée, disons, hybride, hein, puisqu'il s'agit à la fois d'un débat, d'une conférence débat et d'un spectacle musical. Donc on est dans l'hybridation. Alors il se trouve que je suis directeur de cette bibliothèque, de la BPI, Bibliothèque publique d'information, et que comme tout bon bibliothécaire qui se respecte, moi aussi, nous aussi, nous savons ce qu'est l'hybridation. Il fut un temps où l'univers du livre était séparé des autres univers d'expression. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Grâce au numérique, grâce aux réseaux sociaux, à toute cette ingénierie de la création et de la connaissance, nous avons affaire, nous autres bibliothécaires, mais également les responsables de musées, les enseignants, les chercheurs, toutes les personnes qui créent ou qui pensent, nous avons affaire à une hybridation précisément des différents modes d'expression. D'où le fait que la BPI a souhaité, dans le domaine musical, domaine qui la concerne et qui l'intéresse depuis l'origine, hein, depuis la création de cette bibliothèque, nous avons souhaité jouer la carte de la transversalité, de la diversité, de l'articulation des différents modes d'expression musicaux les uns par rapport aux autres. Et pour ce faire, nous avons, il faut dire que l'idée d'ailleurs est venue de lui, nous avons fait appel à une institution, je dirais à mi-chemin entre bibliothèque et institution purement musicale, à savoir la médiathèque de la communauté française de Belgique, et plus spécialement à Pierre Emptine, ici présent, qui est le responsable des collections de cette médiathèque. Nous avons fait appel à lui et à son projet, qui est maintenant un programme, c'est plus qu'un projet tout à fait passionnant, qui s'appelle Archipel, pour montrer à notre public ce que peut être une approche des musiques modernes et contemporaines transversales, hein, c'est-à-dire abordant la musique non pas à travers chacun des genres musicaux, mais à travers des thématiques, des axes de sensibilité ou de pensée qui permettent d'accéder aussi bien à la musique savante qu'à la musique populaire, à la musique expérimentale qu'à la musique établie. Donc je vous recommande, si vous ne l'avez déjà fait, de parcourir la BPI pour explorer le monde d'Archipel, hein, que vous trouverez disséminé à différents endroits de la BPI, avec des postes à la fois d'écoute et de pérégrination dans un espace hypertextuel ou hypermédia des musiques modernes et contemporaines. C'est une manifestation qui a commencé le 15 septembre et qui se termine le 1er novembre. Et dans le cadre de cette exposition spectacle et de cette exposition interactive, nous sommes très heureux d'organiser ce soir le débat concert dont je viens de parler. Donc immédiatement, je vais passer la parole à Pierre Emptine qui va présenter à la fois Archipel et le concert de ce soir. Mais avant de lui passer la parole, je remercie les intervenants que Pierre Emptine va présenter et tout spécialement Christophe qui nous fait l'honneur et le plaisir surtout d'être parmi nous ce soir. C'est une présence, moi qui ne suis pas du tout spécialiste du domaine qui nous réunit ce soir, je connais bien sûr Christophe, mais je connais aussi, je l'ai entendu, je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir dans le passé, plus récemment, et je sais à quel point, et peut-être que le public français ne le sait pas toujours, Christophe, dès l'origine, dès le départ, et ce n'est pas une affaire récente, une espèce de cutie qu'il aurait viré sur le tard, s'est intéressé à cette problématique de la transversalité, de l'hybridation entre différents registres et différents genres musicaux. Donc je suis très heureux qu'il ait accepté notre invitation et nous avons tous hâte évidemment de l'entendre. Mais avant, je passe la parole immédiatement aux conférenciers sérieux qui vont nous parler d'Archipel.
Bonsoir. Merci, Monsieur Bazin. Et donc, effectivement, vous allez patienter plus ou moins le temps de la conférence qui va durer plus ou moins une heure. Moi, j'ai quelques minutes pour faire l'introduction d'Archipel. Alors, je ne vais pas passer tout en revue, expliquer toutes les facettes et les perspectives de ce territoire. Je vais procéder un peu comme pour une devinette. Je vais dire peut-être ce que c'est, peut-être ce que ce n'est pas, ce que ça pourrait être. J'ai heureusement à mes côtés deux orateurs qui vont ouvrir l'horizon. C'est Nicolas Donin, qui est musicologue à l'IRCAM, donc qui étudie beaucoup la composition de la musique contemporaine, mais surtout l'histoire des pratiques d'écoute et d'analyse musicale. Ce qu'on a un peu demandé à Nicolas Donin, c'est de voir un peu, lui, en tant que musicologue à l'IRCAM, en quoi Archipel, dont vous voyez l'aquarium de triangle, c'est chaque fois une œuvre musicale qui est là derrière, en quoi ce dispositif, quand même un dispositif de médiation vers la musique assez pointue, mais qui est un dispositif de vulgarisation, en quoi ça peut apporter quelque chose à la réflexion sur les musiques contemporaines. Et donc, il va faire une sorte de promenade, expliquer un peu comment ça fonctionne et à quoi ça lui fait penser. Ensuite, vous entendrez Bastien Gallet, qui est professeur de philosophie aux Beaux-Arts de Lyon. Il a été directeur d'un festival de musique contemporaine qui s'appelait, c'est un pur hasard, Archipel à Genève. Il a été producteur à France Culture et il est directeur aussi des éditions Musica Falsa, où il y a pas mal, et écrivain aussi, où il y a pas mal de productions de réflexion sur les musiques actuelles au sens large. Mais surtout, comme disait M. Bazin, l'important, on peut parler d'Archipel, je peux vous faire une présentation, mais rien ne remplace le parcours que vous pouvez y faire, le saut dans l'inconnu que vous pouvez y faire grâce à la BPI, en allant vous installer, en faisant votre propre projet, en développant le rapport intime à la musique, parce que c'est bien de ça que l'on parle, c'est du rapport à la musique. Alors, c'est un projet qui vient, on vous l'a dit, d'une médiathèque. Ça se place dans un contexte de l'accès aux musiques dans les sociétés dites de la connaissance et de la communication. Alors, l'accès aux musiques, selon les dires les plus répandus, le discours dominant, c'est une affaire entendue, ça ne se pose même plus. C'est une question de technologie, de tuyaux, il suffit de se brancher, vous avez accès à toutes les musiques. L'archétype du slogan en la matière, il a été placardé il n'y a pas tellement longtemps dans les métros bruxellois, et le message c'était « je veux accéder à ma musique préférée, là tout de suite, maintenant ». C'est un impératif de vitesse. C'est une dictature des goûts établis. Les deux vont de pair et se renforcent mutuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller directement, en un clic, et ça veut dire aussi que vous devez écouter des choses que vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce que si vous connaissez déjà, vous êtes quelque part addict, vous allez recliquer, et plus vous cliquez, le système économique sur Internet fonctionne au nombre de clics. La position de médiathécaire, c'est que ce dispositif, au niveau de l'accès aux musiques, il tue le désir de musique. Dans le corps social, du côté de l'auditeur, du côté du musicien. Nous considérons que ce qui se passe à ce niveau-là, à moyen et long terme, c'est un court-circuit du désir musical. À l'opposé, un dispositif comme Archipel, pensé par une médiathèque qui a 50 ans d'écoute des acteurs de la scène musicale, 50 ans de constitution d'un patrimoine de musique enregistré, à l'opposé, Archipel, c'est lent. C'est accéder aux musiques... Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. C'est accéder aux musiques par le détour, par le moins évident, par l'accident, le moins connu, ce à quoi on ne peut s'attendre, ce qu'on ne connaît pas déjà. Toutes ces musiques qui, forcément, échappent au segment et qui sont souvent appelées péjorativement expérimentales et qui ont la fonction, leur fonction principale, c'est peut-être de rappeler les questions fondamentales, non pas de manière intellectualisante, mais en manière de la pratique, du senti, de l'émotion, c'est quoi la musique, c'est quoi faire de la musique, d'où ça vient, c'est quoi écouter de la musique. Toutes questions sans lesquelles il n'y a plus de désir de musique, puisque ce sont ces questions qui établissent la distance, qui établissent la recherche, et sans cette distance à l'objet musical, je ne vois pas comment on peut, sur le long terme, dans une vie, continuer à désirer la musique. Alors, le rôle des médiathèques dans l'accès aux musiques dans une société de la connaissance, c'est filtrer, ralentir, détourner, c'est établir du temps libre, du vide entre les musiques et le public, du vide désegmenté, sans lequel il n'y a pas de véritable réception, pas de travail d'interprétation. Quand je dis travail d'interprétation, c'est la rêverie qu'on peut avoir devant une œuvre. Pour ça, on ne doit pas être pressé de recliquer pour quelque chose de déjà connu. On doit écouter, on doit vivre avec, on a besoin de temps pour interpréter. Et cette interprétation est d'autant plus inventive si on a du temps, si on a un parcours personnel. La pratique culturelle, c'est pour nous rendre créatifs aussi dans la vie de tous les jours. Donc Archipel, c'est aussi rentrer dans la musique par le vivant, dans le sens où Stephen Jay Gould définit le surgissement du vivant. C'est l'émergence de ce qui ne correspond à aucune catégorie, qui vient défier les normes déjà établies et leurs certitudes, qui se manifeste sur des formes indistinctes, non directement identifiables. C'est ce surgissement sans cesse de formes difficiles à identifier du vivant qui maintient le désir chez les scientifiques de continuer à connaître toujours un peu plus le vivant, la matière vivante, etc. Archipel, au niveau du champ musical, c'est ce lieu de surgissement du vivant. Il faut arrêter de dire que les musiques laboratoires sont pour un public pointu, s'il n'y a rien qui se crée là de nouveau vivant au niveau texture sonore, forme nouvelle, il n'y aura plus de nouveautés dans les autres musiques. Le champ musical se tient, et là, il y a une nouveauté, une création, par capillarité, ça fonctionne, et ça va finalement irriguer en nouveauté l'ensemble des musiques. Alors, c'est un territoire mouvant très large, au niveau historique, même si le classement et l'approche n'est pas chronologique. Vous pouvez trouver là-dedans une œuvre de Satie, à Merseburg, de John Cage à Moondog, Moondog un musicien des rues, de Lou Reed pour Metal Music Machine à Oval, qui travaille des sons de musique détériorés, de Luc Ferrari à Peter Cusack, de Dada à Henri Chopin. Donc, Archipel place vraiment au centre du désir de musique toutes les formes musicales que le commerce et les médias rejettent dans les marches, les niches, les segments pour pointus et le superflu pour élite. Donc, c'est mal barré. Alors, ce territoire, on a voulu faire une approche un peu différente, qui ne soit pas musicologique, qui ne soit pas scientifique, même si c'est sérieux quand même. Et donc, on a organisé l'approche en îlots. Donc, vous voyez ici, c'est là au-dessus. Alors, il y a une dizaine d'îlots. L'îlot Bonjour, ben, c'est l'îlot, c'est l'accueil. Vous allez trouver là-dedans des anthologies, des documents historiques, les anthologies Dada, mais vous allez aussi trouver des DVD didactiques qui expliquent comment fonctionne le platinisme, c'est quoi faire de la musique avec une platine. Ensuite, vous avez 9 îlots, aléa, bruit, corps, micro-macro, recyclage, silence, temps, témoin, utopie. Donc, des thématiques ou des métaphores. Quand vous arrivez sur un îlot, on fera un petit parcours tantôt. Donc, vous voyez, quand vous cliquez déjà sur témoin, vous voyez apparaître témoin, c'est là qu'il y a le plus d'œuvres parce que nous avons travaillé sur un projet qui a été présenté au Centre Pompidou, donc on a produit beaucoup plus. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez déjà plus ou moins le nombre d'œuvres qui sont dans cet îlot-là. Quand vous arrivez bien sûr sur l'îlot, vous verrez tantôt, il y a les œuvres principales, ce qu'on appelle les pierres blanches. Mais il faut bien comprendre que si une médiathèque avec une 50 ans d'expérience, fait ce type d'approche-là, et choisit des noms d'îlots de ce genre-là, ce n'est pas pour faire joli. Si on prend l'îlot temps, il est là en référence quand même au bouleversement important qui secoue les notions de temps, les notions temporelles dans la modernité classique, la modernité avancée. Ça fait référence à l'accélération sociale du progrès, de plus en plus puissante. Tous ces changements du temporel, des notions du temps, affecte la manière du rapport à soi, la manière de la construction de l'identité dans une société, donc le rapport aux autres. Donc c'est bien ça que les musiques hébergées dans Archipel interrogent dans la notion de temps à travers cette notion de temps. Et en s'y intéressant, l'objectif, et c'est aussi un discours pour ramener les musiques du côté d'une connaissance, connaissance émotive, émotionnelle, intuitive, mais connaissance tout de même, en s'y intéressant, on va apprendre des choses sur justement notre relation au temps, et qui peuvent permettre de réagir autrement, par exemple, aux pressions de temps subies dans le présent, dans l'actuel, au travail, dans la vie de tous les jours, dans les flux de saturation de communication que nous vivons. Alors, les différents îlots ne sont pas isolés, ils sont reliés aussi par des mots-clés, par différents index de recherche, mais ils fonctionnent thématiquement, organiquement. Le changement de temps, la notion du temps, du temporel, a des répercussions sur le corps. Donc, il y a des musiques qui rendent compte de ces mutations corporelles, qui utilisent le bruit que font le corps. Vous allez trouver ça dans l'îlot corps, qui désacralise la musique en rendant le bruit corporel beaucoup plus présent dans le discours musical. Le temps, les corps changent aussi sous le coup de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies apportent aussi des pratiques de recyclage et des nouvelles manières de positionner la perception par rapport à ce que dévoilent des avancées au niveau de le micro-macro. L'invisible, les structures internes de la matière, comme on ne les avait jamais vues, peuvent inspirer des partitions graphiques, peuvent inspirer des structures créatives, que ce soit dans les arts plastiques, dans les arts sonores aussi. Cette accélération du temps déclenche aussi une avalanche de nouvelles informations. C'est le flux à gérer considérable d'informations qui nous inonde. Et ce contexte-là, pour le dire vite, modifie la relation au silence, modifie la relation au bruit et crée le besoin de se référer à de nouvelles formes de témoignage dans cette société bruyante, inondée de flux. Donc vous voyez, avec ces quelques exemples très schématiques, que l'approche qui est proposée là en termes d'approche par îlot, c'est organique, c'est relié ensemble, ça construit un discours sur les musiques. Alors je vous l'ai dit, vous voyez, il y a la structure par îlot, il y a des structures aussi plus conventionnelles avec un avant-propos, une liste d'artistes, un glossaire, il y a un audio-guide en construction avec des podcasts radiophoniques. Quand vous cliquez sur, par exemple, l'îlot temps, qui pour le moment est mon préféré, vous avez alors toutes les œuvres qui ne sont pas l'îlot temps qui restent en grisé, les œuvres de l'îlot temps qui se regroupent là. Vous avez un texte de présentation de la philosophie générale que vous retrouverez aussi, comme tous les textes d'introduction aux îlots, dans la brochure qui est disponible à la BPI. Et puis alors, vous avez une liste d'œuvres. Alors, soit vous allez intuitivement par les triangles, vous cherchez dans notre AP1, soit vous allez procéder par un index plus conventionnel. Je crois que notre réflexion principale, alors c'est une matière qui peut être appréhendable par les gens qui connaissent, qui sont déjà initiés, qui vont voir, ah oui, il y a Merzbow, il y a John Cage, tout ça se trouve là-dedans, ok, je connais le territoire. Notre but quand même, quand j'attire l'attention sur le rôle au niveau de la relation vivant que ces musiques apportent, et qu'elles permettent de mieux comprendre aussi les musiques mainstream, les musiques plus conventionnelles. Notre but quand même, c'est d'ouvrir la perception, c'est d'ouvrir le champ et d'ouvrir le public pour ces créateurs-là. Ce sont des musiques que vous ne trouvez pas dans les médias, pour lesquelles il n'y a personne qui les défend, et donc ça devient assez catastrophique pour les gens qui créent là-derrière et pour le sens même de la musique dans la société. Quand j'ai présenté ce projet-là le 14 septembre, ici même, un peu avant, il y avait une jeune journaliste qui me posait la question. Écoutez, moi, je n'ai jamais écouté ce genre de truc-là. Je ne connais rien, j'écoute l'ultra-top. Comment je fais? Comment je rentre là-dedans? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre quand je rentre là-dedans? Comment je fais? Je vais perdre pied. Et je crois que c'est fondamental de se rendre compte que le discours sur l'accès aux musiques est tellement conditionné par un système de clics rapides que quand on propose d'accéder à une musique moins connue, où il faut prêter attention aux artistes, donc leur consacrer du temps, on perd pied. On a peur de perdre pied. Je crois que le mieux, c'est de dire, effectivement, perdre pied, c'est la première étape importante. Et prendre conscience qu'on perd pied, c'est sans doute fondamental. Je vais vous passer un extrait de son pour montrer comment ça s'enchaîne d'îlot en îlot. Dans l'îlot de temps, grosso modo, vous avez deux types d'œuvres. Il y a tous les grands créateurs, les compositeurs qui ont remis en question la notion du temps occidental. Il faut voir quand même que tout ce qui a modernisé l'art a remis en cause la primauté de l'homme occidental, de l'individu occidental, comme centre de l'univers. Et donc, ce sont des compositeurs comme John Cage, comme Morton Feldman, qui ont introduit des autres notions de temps en s'inspirant de l'Orient, des philosophies orientales. Ce sont des œuvres qui demandent excessivement longtemps, qui sont lentes et très longues. Il faut se soumettre au temps qu'elles dégagent. Si on n'a pas écouté Hélène Radigue pendant 3 heures, on n'a pas compris Hélène Radigue. Il faut éprouver le temps qu'elle dégage et cette relation au temps. Donc, on est là aussi dans ce que certains sociologues appellent les compétences au niveau des pratiques culturelles. Il ne suffit pas de cliquer une musique, il faut l'écouter, il faut rentrer dedans. Et puis alors, il y a des musiques qui sont plus en rapport avec la modernité avancée, donc qui transmettent déjà beaucoup plus l'impact de cette accélération des flux de communication et qui rencontrent aussi de la pression et du temps qui érode l'individu qui arrache de l'être et comment on réagit à ça. Et donc je disais à cette jeune personne très sympathique, il faut rentrer dedans, il faut écouter quelque chose, vous n'aimez pas, mais vous passez à une autre, et vous allez créer des liens, vous allez trier, vous allez sélectionner, après un certain temps, vous n'allez peut-être pas comprendre ou comprendre des choses, mais vous allez petit à petit faire votre propre trajet. Et c'est comme ça que, en menant votre propre réflexion, en disant, tiens, ça me fait penser à tel bruit de la rue, ça me fait penser à telle musique que j'ai déjà entendue, petit à petit, vous créez votre bagage d'interprétation. Alors, ce qui est important, je crois, justement, dans ce type d'interface, c'est comment les choses se nouent, se lient, et comment elles dégagent du sens. Alors, par exemple, dans L'île au temps, alors, vous voyez ce qu'il y a, quand je disais...
Oui. Par rapport à ce que je vous disais, le type de compositeur, il y a Ligeti, il y a Hélène Radig, il y a Charlemagne Palestine, Terry Riley. Je vous propose d'écouter un morceau de Axel Dörner. Axel Dörner, c'est un trompettiste qui a déjà une très grande discographie, où il joue vraiment de la trompette. Et puis ici, il fait une autre expérience. Je crois qu'on va écouter tout de suite... Si je l'attrape. Trompette, mais il joue sur l'embouchure. Et donc, c'est classé dans L'île au temps. Pourquoi ? Parce que c'est un souffle continu. C'est des plages qui durent très longtemps. Vous voyez que ce n'est pas un temps lisse, comme si vous avez écouté Hélène Radig ou certains compositeurs de cet ordre-là. Le temps est relativement lisse, l'œuvre est relativement lisse. Et là, vous voyez que ça arrache. C'est comme un glacier qui charrie du matériau. Et si je laissais les 25 minutes, vous comprendrez mieux effectivement ce que je veux dire. Et alors, petit à petit, comme ça se joue très fort entre la bouche et l'embouchure, tous les bruits corporels apparaissent. On entend les bruits de l'air, on entend progressivement la salive qui passe ou qui reflue, on entend le souffle, évidemment. Et donc, le corps est absolument très, très présent. Ce qui nous amène à la zone qui se trouve ici, c'est qu'effectivement, un archipel, tous les îlots, quand on retire l'eau, ils sont reliés. Donc, c'est ce que les mots-clés, les tags indiquent. Ce disque est classé effectivement dans L'île au temps. Alors, je ne vous dis pas quand on classe les œuvres musicales, on discute beaucoup entre nous, parce qu'une œuvre est par avance destinée à ne pas être classée. Donc, c'est chaque fois une œuvre singulière, surtout sur ce type de territoire. Mais voilà, on joue quand même et... c'est également classé dans L'île au corps parce que, comme je vous disais, on entend l'organe, on entend le physique, on entend l'organisme qui ressort dans la trompette et puis qui retourne dans l'organisme. Il y a un échange entre l'instrument et l'individu, d'où le titre du projet « Organologie des musiques actuelles », qui est un terme que Bernard Stiegler a beaucoup développé. Mais si vous êtes lancé là-dedans par intuition, que vous tombez sur un type qui joue comme ça, avec sa trompette... Vous dites, c'est quoi ce truc-là? Après 3 minutes, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, ça va avec le corps, ben je vais aller voir dans le corps. Et si j'explore un peu ici et que j'écoute un peu, je vais tomber avec des gens comme Henri Chopin, de la poésie sonore, des gens comme Jan Blanc, qui interprète notamment des œuvres d'Ada, et qui sont tous des gens qui travaillent justement avec la bouche, au niveau du vocal, qui déstructurent le verbe, qui font ressortir le cerveau, qui font ressortir tout le bruit de ce qui permet de chanter, c'est-à-dire les intestins, la tête, le corps. Enfin, quand on chante, tout l'organisme fonctionne. Et si le chant classique a toujours fonctionné beaucoup avec le corps, c'est toujours arrangé dans sa perfection pour éliminer la perception du corps dans la musique. Ici, c'est tout le contraire. Avec Dada, tout le corps apparaît. Et donc, si on fait le lien entre ce que Axel Dörner fait avec la trompette pour rendre le corps présent dans le temps de sa musique, qu'on fait le lien ici avec la manière de chanter, de vocaliser une certaine poésie sonore, on a créé déjà un monde. On a déjà créé un lien parce qu'on a associé des choses très différentes, tant au niveau de l'époque qu'au niveau du langage sonore, de la narration, de la structure, et qu'on ait eu un préalable ou pas avant d'entrer dans l'archipel, quand on en sort, on a créé un trajet. Et ce trajet, d'une manière ou d'une autre, quand on va réécouter d'autres choses, ça va ressortir, ça va nourrir l'interprétation permanente et la créativité permanente d'une personne, jeune ou moins jeune, par rapport à ce qu'est la musique dans la société. Je suis tip-top dans le temps de mon introduction. J'avais prévu beaucoup d'autres choses, notamment, juste comme indication, hier dans le train en venant, j'ai commencé à lire un court roman, Point Oméga, de Don DeLillo, et qui décrit tout à fait l'approche idéale pour l'île-au-temps, puisque c'est l'histoire d'une installation sonore de, je ne reviendrai plus sur le nom de l'artiste, qui a pris 3 minutes de psychose. C'est ça, oui. Et qui en fait un film de 24 heures. Donc le roman s'est projeté au moment dans une salle, et il y a un type qui est fasciné, qui regarde en permanence cette œuvre-là, et il explique en quoi ça le bouleverse par rapport au film tel qu'il connaissait. Donc entre cette œuvre-là et le film qu'il a connu, ça crée un intervalle, donc ce n'est pas un clic, il faut au moins un millier de clics pour faire le lien. Donc ça lui donne une interprétation, un temps d'interprétation, et il y a toute la phénoménologie dans ce roman de comment situer par rapport à une œuvre qui bouleverse ces notions de temps. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas qui va parler de silence, entre autres.
De silence. Ben, bonjour à tous, merci de l'invitation. Je pense que ça a dû être bien réglé. On m'entend là ? Oui, ça va ? Donc oui, moi j'ai le rôle un petit peu du bêta-testeur, comme on dit pour les logiciels ou les jeux vidéo. Sauf que dans un bêta-test, on cherche des bugs, on juge l'ergonomie, donc là je ne vais pas faire tout ça. Je vais juste faire une sorte de retour d'expérience d'un usager qui donc a eu la chance, le plaisir de passer un peu de temps justement dans ce dispositif. Et je vais essayer d'en pointer quelques implications musicales, esthétiques, rapidement. Alors la première chose pour moi qui m'a frappé, c'est ce que je pourrais appeler l'effet médiathèque. C'est-à-dire que c'est la coprésence, la juxtaposition de zones très familières et de zones très inconnues. Enfin, c'est quelque chose d'un peu troublant, mais d'un peu grisant aussi. C'est-à-dire donc moi je suis spécialiste, disons, d'une branche, d'une niche de la musique contemporaine, écrite sur partition, donc je connais un peu le monde extérieur quand même, mais pas tout. Et quand on arrive là-dedans, ben, on a une sorte de pluri-spécialité comme ça, qui est le fait de ces différents médiathécaires, chacun a sa spécialité, ils ont collaboré. Et donc on se retrouve exactement comme dans une vraie médiathèque, quand on va dans le rayon qu'on connaît bien, et à côté il y a le rayon qu'on connaît moins bien, et puis entre les deux il y a une pochette de disques un peu bizarre comme ça qui attire l'attention, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Simplement là évidemment c'est pas par les mêmes moyens, c'est pas la pochette du disque, puisque vous avez vu qu'il y a ces petits triangles désespérément identiques les uns les autres. Et par conséquent ben, on trouve une autre façon de marcher par hasard dans l'archipel. Désolé Pierre, mais pour moi ça consistait précisément à cliquer n'importe où,
oui, très bien.
N'importe comment, et puis à tomber sur des choses. Qui est Thomas Koehner? Que joue le Animist Orchestra? Ça c'est vraiment des questions que je ne m'étais jamais posées dans ma vie, je ne savais pas qui c'était. Voilà, ça c'est l'effet médiathèque dans toute sa grandeur, disons. Alors il y a certaines choses qui sont évidemment plus ou moins frappantes dans cette médiathèque un peu particulière, avec ces musiques effectivement un peu pas mainstream, comme disait Pierre. J'ai besoin de l'ordinateur. Merci. Par exemple, voilà ça, justement, on peut cliquer dessus. Voilà, il y a un îlot silence. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils l'ont fait. Parce que, bon, ça, c'est pas forcément évident, quoi. Donc, je vais vous quand même. Je ne sais pas si on est prêt à le croire quand on le voit comme ça, mais donc je vous donne la preuve que c'est vraiment du silence. Voilà, donc là on va écouter par exemple un extrait de 4 minutes 33 de John Cage, première œuvre intégralement silencieuse. On peut avancer un petit peu peut-être. Voilà. On a entendu une petite action qui était faite dans le studio, parce qu'en fait cette œuvre est en trois parties qui durent donc respectivement 30 secondes, 2, 23, 1, 40. Pour marquer cette césure, il y a eu une toute petite inflexion comme ça qui a été donnée. Bon, ça c'est très connu des amateurs de musique contemporaine. Alors beaucoup moins connu, si j'arrive à l'attraper, parce que pour garantir la lenteur, il y a des petits pièges qui ont été aménagés par les concepteurs. Voilà, Richard Chartier, c'est un États-Unien. Lui travaille aussi sur le silence aujourd'hui. C'est assez différent. Ça dure une heure. Si on passait longtemps, on s'apercevrait que de temps en temps, on sent quelque chose qui se passe, mais en fait, on ne sait pas quoi. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Cage, lui, il a fait une œuvre silencieuse. L'idée, c'est qu'un pianiste s'assoit, à l'origine, c'est un pianiste s'assoit devant le piano, ne joue pas. Donc, il met en crise le concert. Là, au contraire, c'est une œuvre qui est pensée pour le disque. C'est vraiment fait pour le CD. Et c'est un son qui dure toute l'heure. Simplement, il est trop haut et trop bas pour la perception humaine. Et il est juste à la frontière, ce qui fait que de temps en temps, quand il s'en approche, on sent quelque chose et ça repart. Donc là, voilà deux qualités de silence. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours le deviner, donc on a besoin du paratexte. Et justement, il y en a un. Voilà, un truc vraiment bravo, vous l'avez fait, c'est admirable. Donc les musiques taciturnes, les musiques taiseuses, comme dit Pierre dans un de ses textes, sont présentes de cette façon-là. Alors, je reviens un peu sur la question de comment on navigue dans cet espace-là. C'est une question importante si on fait l'hypothèse, à mon avis réaliste, que nous n'écoutons pas de la même manière une compilation, par exemple, dans un album, une anthologie. Un enchaînement de pistes classées par iTunes de façon bestiale dans l'ordre alphabétique, ou encore une pile de disques qu'on vient d'acheter et qu'on a posé à côté de sa chaîne-fi et qu'on se passe l'un après l'autre. Donc ici, le mode de passage d'un point à un autre, effectivement, une chose très importante, ça configure notre écoute. Et on pourrait dire donc qu'ici, on a une sorte de playlist multidimensionnelle, hein, puisqu'il y a tous ces moyens différents de naviguer dans les mêmes choses. Et en expansion continue, un peu comme la galaxie, on suppose qu'au fur et à mesure que des nouveaux disques arrivent, ils vont s'intégrer là-dedans, et donc une sorte de médiathèque en dynamique, comme ça, en expansion. Voilà, donc ça c'est le mode de navigation. Ça a un effet immédiat qu'on voit bien quand on arrive comme ça dans l'archipel. Pierre le montrait, c'est que ça fait une sorte de mise à plat comme ça, généralisée de tous les genres, toutes les démarches, toutes les hiérarchies instituées. Ça rappelle un peu certaines installations de Christian Marclay, ce plasticien et musicien new-yorkais, qui a fait notamment des installations dans lesquelles il pose des vinyles sur le sol de la galerie ou du lieu d'exposition, à un endroit passant où on est obligé de passer, de telle façon que tout le monde marche sur ce tapis de vinyle, ce qui génère un sentiment d'outrage et puis de frustration infinie, qui est redoublé par le fait que si on veut passer à la pièce suivante et profiter de cette œuvre, c'est en empêchant à jamais la possibilité d'entendre ce qu'il y a sur les disques en marchant dessus. Et là, c'est comme si on avait une sorte de, dans un monde un peu comme ça idéal, tout à coup on aurait cette œuvre de Christian Marclay, mais qui serait comme en lévitation, et puis où on la rayerait pas avec les pieds, on pourrait enfin tout écouter, mais simplement l'ordre est complètement absurde. On ne sait pas pourquoi on passe d'une symphonie de Beethoven à je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est une sorte de vision discomorphique de la musique, j'aurais envie de dire. Il y a des sociologues qui ont beaucoup parlé de la discomorphose de la musique au XXe siècle, le fait que tout à coup c'est le disque, l'album qui devient la référence, le formatage de référence pour la musique. Ben là vraiment elle est là, cette vision discomorphique. Donc c'est évidemment un point d'arrivée de la musique du XXe siècle plutôt qu'un point de départ. Moi qui suis historien, ça m'a choqué quand même au départ, parce que c'est vraiment une vision depuis aujourd'hui, c'est une sorte de présentisme comme ça, où toutes les pratiques expérimentales du passé finalement sont plus ou moins vues comme dans leur rapport de précédence avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça a un effet très positif, c'est que quand on passe d'une chose à une autre, indépendamment de la provenance de l'échantillon, on a l'impression que tout est de la même époque. la nôtre, en fait. Donc ça, c'est très troublant. Alors, bon, évidemment, donc, ces classifications, on a vu, c'est des classifications avec des sortes de catégories un peu universelles, comme ça, le corps, le temps, etc. On ne retrouve pas du tout les classifications savantes, disons, à la façon histoire de l'art, avec les courants, les esthétiques. C'est bien l'idée, j'ai compris, j'ai apprécié. Mais quand même, c'est amusant de regarder si on les retrouve un peu quelque part. Alors, par exemple, je me suis dit, bon, alors, musique concrète, qu'est-ce que je vais avoir de la musique concrète? Je n'avais pas vu qu'il y avait un glossaire, hein, donc j'ai trouvé tout seul la musique concrète dans tous les petits carrés, dans tous les petits triangles, pardon. La musique concrète, elle va être dans, voilà, dans l'introduction, bonjour, elle va être dans les témoins, elle va être dans l'utopie. Tant mieux pour elle. Et elle va être dans les bruits aussi. Et puis, elle va être surtout dans le recyclage. Alors là, on a tout Permegiani, Pierre-Henri, François Bell, François Daumont, etc. Alors, j'ai continué ma petite exploration. Je me suis dit, ah, les musiques répétitives, minimalistes, elles sont où? Alors là, pour le coup, il n'y a aucune transversalité. Elles sont toutes dans l'îlot temps dont tu as parlé tout à l'heure, Pierre. Reich, Glass, Reilly, tout ça. Ils sont tous là. Si on va dans l'îlot temps, par exemple... on peut se faire le plaisir de se réécouter un petit classique comme par exemple Drumming, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Ça dure évidemment très longtemps comme ça. Le peu que j'ai passé là, ça doit probablement vous avoir suffi à faire le début de l'expérience fascinante qu'on peut avoir avec ce type de musique, c'est-à-dire l'illusion auditive, quoi, la difficulté à savoir qu'est-ce qu'on doit exactement écouter, le détail de chaque note, la forme globale, quelque chose entre les deux, et puis surtout quand est-ce qu'on doit changer de niveau, ou est-ce qu'on peut arriver à tout entendre en même temps. Donc cette question-là, je pense qu'elle est assez centrale dans ce que vous avez réuni là, dans cet îlot temps. Au début, je pensais aborder cet îlot en me disant, tiens, alors, il doit y avoir du temps très lisse et du temps très strié. Hein, c'est des catégories qu'on aime bien dans la musique contemporaine que Pierre Boulez avait popularisé dans les années 60. Il disait, le temps lisse, c'est le temps où on occupe le temps sans compter. Donc, c'est des résonances très longues, comme ça, dans lesquelles on ne peut pas prévoir si un autre événement va arriver. Et puis le temps strié, c'est compter le temps sans l'occuper. Donc c'est vraiment... Compter le temps pour l'occuper, c'est-à-dire justement, en gros, s'appuyer sur une forme de pulsation, de grille, de prévisibilité, quelle qu'elle soit. Et c'est pas un hasard que Boulez ait toujours détesté et méprisé les musiques minimalistes et répétitives, parce que précisément, celles-là, elles sont à la fois lisses et striées. Je trouve que c'est une leçon magnifique quand on traverse cet îlot. C'est-à-dire que là, vraiment, on est obligé de se rappeler ça. Elles ont l'air très striées comme ça au début. Et puis bon, au bout de 2 heures, vous avez compris qu'elle n'était pas striée. En fait, elle était lisse. Voilà. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut faire avec ça. Bon, bah, je passe mes petits exercices de retrouver les classifications existantes. J'avance un peu. Donc je reviens à l'idée de la vision discomorphique dont je parlais tout à l'heure. Elle privilégie donc les œuvres et les dispositifs qui se laissent endisquer, hein, comme on dit au Québec, peut-être là dans cette expression, j'ai endisqué un récital, j'ai fait un disque. Donc seulement les choses qui se laissent endisquer. Ça veut dire pas tellement le théâtre musical où la dimension gestuelle est très présente, ça veut dire pas tellement les expériences avec la spatialisation du son, parce qu'on a un dispositif stéréo, pas les installations sonores interactives qui se prêtent pas bien à passer sur ce format-là. Et pas non plus la musique de concert instrumentale, l'orchestre. Hein, il y a 3 items orchestraux sur 150. Et alors ça m'a quand même évidemment un peu troublé. Je me suis dit que les installations sonores interactives soient difficiles à mettre dans Archipel. C'est pas très étonnant, effectivement, c'est stéréo. Et puis souvent, on n'a pas de disques commerciaux des installations sonores interactives, par nature. Mais alors que la musique dite contemporaine se retrouve... une sorte de chose un peu exotique, comme ça, une sorte de contrée reculée dans la géographie de l'archipel des musiques expérimentales, ça m'a quand même, à un moment donné, ça m'a fait un choc. Alors en fait, évidemment, c'est pas aussi caricatural que ça, mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le sens du mot expérimental, au fond, il a changé. De stigmate public de l'avant-garde des années 50, qui d'ailleurs s'en était écarté très vite comme une sorte de maladie infantile, c'est devenu ce mot quelque chose qui sert à qualifier un ensemble de démarches qui mettent l'accent sur des concepts, des dispositifs, par opposition, on pourrait dire, à des langages musicaux, des écritures, de la forme. Donc, dans un monde, l'exploration acoustique serait intégrée dans la performance et dans son instrumentarium, ce serait la musique expérimentale au sens d'archipel, et puis dans l'autre, elle relèverait plutôt de la formalisation préalable, le pré-compositionnel, comme on dit parfois. La musique contemporaine, d'ailleurs, s'accommode très bien de l'idée d'œuvre close sur elle-même. Donc, c'est précisément, elle a quitté, à un moment donné, en gros, à l'époque de John Cage, il y a une sorte de départ comme ça entre ces deux conceptions-là. Et ici, on est dans la généalogie de John Cage. On voit bien, il est un peu partout dans les différents îlots. Bon, évidemment, cette opposition que je fais s'avère un peu caricaturale. Elle concerne qu'une période de peut-être 30 ans dans l'histoire de la musique. Alors, pour finir mon petit tour, je voudrais faire place à un bref moment de musique, en l'occurrence de musique avec image, qui n'est pas dans Archipel.
Pas encore.
Pas encore. Peut-être demain, j'espère. Parce qu'en consultant intensivement un truc comme ça, évidemment, vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qui manque? Donc, qu'est-ce qui me manque, en fait? Qu'est-ce qui me manque en respectant les règles du jeu, évidemment, des musiques qui peuvent y trouver place? Et je me suis dit, ben, il manque les œuvres orchestrales de Chelsea, par exemple, ce précurseur de la musique spectrale qui fait une exploration comme ça, intensive, de l'unité, de la variété de sons uniques qui sont orchestrés, un orchestre entier. Je me suis dit qu'il me manquait un îlot, je fais une commande un peu, proche et lointain. Pour qu'il y a micro et macro, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas proche et lointain. Et au milieu de cet îlot, il y aurait Prometeo de Luigi Nono, qui est un dispositif expérimental s'il en est. Mais qui fait sauter de l'intérieur l'opéra, donc la chose la plus traditionnelle qui soit. Et puis je me suis dit enfin qu'il faudrait pouvoir explorer avec Fausto Romitelli, un compositeur de la fin du XXe siècle, qui est mort il y a 6 ans maintenant, les espaces vides, les blancs entre les cultures musicales différentes qui sont disjointes ou souvent, et qui sont que l'archipel essaye de réunir. Et Romitelli, c'est un exemple de quelqu'un qui à la fois est un pur produit de ce siècle électrique, discomorphique dont je parlais, et puis qui en même temps s'est posé le problème de relier des choses qui normalement ne peuvent pas être liées, des musiques très populaires, très savantes, de différentes époques. Donc à titre d'exemple, pour finir, je voudrais juste vous proposer d'écouter et de voir, parce que c'est une sorte de vidéo-opéra, donc il y a une image, un film qui passe en même temps, la façon dont Romitelli a créé des continuités entre le son des Pink Floyd, celui de Panasonic, un duo finlandais de musique électronique des années 90, et sa propre musique, dans le début, donc quelques extraits qu'on va passer du début de An Index of Metals, qui est sa dernière grande œuvre, comme ça qu'il a composée juste avant sa mort en 2004. Donc au début, on a la première seconde de Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd. On va reconnaître cet accord de sol mineur, comme ça, bien connu. Sauf que ça, c'est comme si le disque ne marchait pas. Hein. C'est une expérience de... Voilà. Et puis, progressivement, on va voir comment il le modifie. Alors, si on peut le lancer... cet exercice-là répété plusieurs fois. C'est un peu les trois coups en fait, de l'opéra, hein, version Romitelli, sauf que là, ce n'est pas trois coups, c'est 8 coups. Ça ne marche pas bien. Et puis progressivement, il va développer et orchestrer juste ce son et faire donc une écriture pour des instruments traditionnels qui viennent enchaîner juste derrière ce son. arrive à la fin de tout ce passage-là. Le temps qu'en régie, on avance très vite dans le DVD pour attraper le bon extrait. On va arriver vers le premier intermezzo. Alors, il y a comme ça trois ou quatre intermezzos dans l'opéra, qui sont des plages de son de 1 à 2 minutes, qu'il a vraiment reprises telles quelles à ce duo Pansoni, qui leur a demandé leur autorisation. Et donc là, au contraire, on est dans de la musique électronique assez radicale des années 90, qui travaille essentiellement sur des cas un peu limites de sons très digitaux parfois même vrillent un peu les oreilles. Il va réussir à faire une transition comme ça entre ce qu'on vient d'entendre et ce son-là. Dernier épisode, c'est comment on passe de ce qu'on vient d'entendre là, je saute un peu une minute de son, jusqu'à comment lui, il écrit d'habitude. Donc comment on débouche dans l'écriture de Romitelli. Et là, on va voir le dernier petit extrait. C'était radical comme arrêt. Voilà, donc c'était l'archipel de Fausto Romitelli, pour finir.
Merci, Nicolas.
Intervention qui donne beaucoup à penser, en tout cas de mon côté. Très riche au niveau de son analyse, ou comment se retrouve dans l'archipel, les classifications savantes, académiques ou la musique contemporaine. Donc, c'est comme ça qu'on l'avait voulu et il l'a perçu comme ça. Donc, c'est intéressant de le voir. Maintenant, sur le côté qu'est-ce qui manque, je vous ai dit, je n'allais pas tout dire sur Archipel. Il y a pour le moment 200 œuvres musicales. Quand on aura fini toute notre partie dedans, c'est 5000, 6000. Donc, beaucoup de choses que tu as invoquées finiront par s'y retrouver. Il faut qu'on trouve, évidemment.
Je trouverai qu'il manque.
Alors, c'est aussi un projet que nous espérons développer sous une forme participative, contributive, différentes manières. Archipel est à BPI. La BPI pourrait très bien imaginer, on voudrait créer un îlot différent. Nicolas a donné une piste. Effectivement, on aura des contacts pour créer des îlots différents, faire entrer des œuvres différentes. Je crois aussi qu'il faut diversifier les approches et demander à des personnes de faire des parcours dedans, commenter, expliquer, je crois que montrer comment les choses peuvent se lier. Donc, beaucoup de remarques intéressantes sur l'analyse du produit, je vais dire, mais voilà, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qui est en devenir. Tu veux ? Voilà, donc je cède la parole à Bastien Gallet.
Merci. C'est très beau ce que tu as montré, Romitelli. C'est une allégorie un peu des pratiques musicales contemporaines. un compositeur doit passer par Panasonic et par les Pink Floyd pour pouvoir composer aujourd'hui. Il faut traverser ces univers pour y arriver. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'avant qu'il meure, on a monté un projet avec Fausto à Archipel, l'autre Archipel, le festival à Genève. Et il est mort avant d'avoir pu voir le projet se réaliser, mais l'idée qui s'est réalisée, effectivement, était belle, puisqu'il s'agissait de demander à des compositeurs contemporains d'orchestrer leurs morceaux favoris de Panasonic, et de demander à Panasonic ensuite de remixer en concert, en direct, les orchestrations. Et c'était assez étonnant, je veux dire. C'était très beau. Alors, je voudrais, moi, traverser un îlot. Je considère les îlots comme des sortes de constellations, et des constellations qui, en fait, dessineraient les coordonnées d'un problème. Vous voyez ? Donc là, ce serait le problème du bruit. Donc, ce problème, la musique l'a rencontré au XXe siècle. Il se trouve qu'à chaque fois que la musique s'est posée ce problème, elle a posé différemment. Elle a modifié, disons, l'emplacement des coordonnées du problème. Donc, elle a reconfiguré le problème en essayant de le résoudre, si vous voulez. Donc, je vais essayer rapidement de distinguer trois manières de poser le problème du bruit. Il y en a sans doute d'autres, et ces manières ne sont pas strictement isolées les unes des autres, et que j'appellerais ainsi. Donc, première manière de poser, de résoudre le problème du bruit, ce serait l'inclusion, la digestion. Le deuxième, ce serait la traumatique, l'art du choc, et le troisième, ce serait le parasitage. Voilà. Il y en aura un quatrième, peut-être, que j'évoquerai à la fin si j'ai le temps. Donc je vais aller vite parce qu'on est un peu en retard, je crois. Alors, l'inclusion. Donc chaque problème s'accompagne évidemment d'une définition possible du bruit. Donc l'inclusion, ce serait inclure, donc, hein, de la part d'un compositeur ou d'un musicien, ce qui, hors du champ musical, ne lui appartient pas, relève donc du bruit. Donc j'entends par bruit ici, au sens acoustique, technique du terme, hein, tout son inharmonique, hein, fait de vibrations non périodiques, comme des sons de percussion, par exemple. Donc on peut dire qu'un des grands projets musicaux du XXe siècle a été, pour les compositeurs, de chercher à étendre, hein, le domaine musical, leur domaine musical, à tout ce qui relevait du bruit, donc tout ce qui était situé hors de ce domaine, et qu'il fallait donc inclure. Ce qui a une conséquence intéressante, puisque inclure quelque chose d'extérieur veut dire aussi redéfinir ce qu'est la musique, et peut-être aussi ce qu'est le son lui-même. Donc on ne peut pas inclure, digérer, hein, ce qui est nommé bruit sans redéfinir le domaine même dans lequel on inclut. Donc la digestion transforme le corps qui le digère, si vous voulez, en un sens presque nietzschéen du terme. Alors, on inclut quoi ? Par exemple, les dissonances. Hein, les dissonances du style musical classique, ce qu'ont tenté de faire les musiciens sériels, hein, de la seconde école de Vienne, hein, Schönberg, Berg, Webern, par exemple. On peut aussi inclure les bruits, hein, les raclements, ululements, crépitements, les bruits presque plastiques, gestuels, performatifs, disons, ce que tentèrent les avant-gardes, et je pense notamment évidemment aux futuristes. Et puis on peut essayer d'inclure tout. Et se contenter, les musiciens concrets, notamment Pierre Schaeffer. Alors, voilà, une manière de faire. Alors, je vais prendre rapidement l'exemple des futuristes qui ont, à mon avis, plus ou moins échoué, mais on a peu d'exemples, à vrai dire, de ce qu'ils ont fait, donc c'est difficile, quoi. Alors, voilà un exemple d'Oulu Latoré. Alors, sur... sont produits par un instrument que les futuristes inventèrent, donc le fameux Intona Rumori, inventé donc par Luigi Russolo et Ugo Piatti. Et là, c'est une version contemporaine, hein, reconstituée du dispositif, et le son est enregistré donc en 77. C'est très simple, hein. En fait, c'est presque décevant, vous voyez. Et les futuristes, comme la plupart des groupes d'avant-garde, ont lancé des manifestes détonnants, extrêmement ambitieux. Là, le manifeste en question est celui de Russolo, hein, l'art des bruits. Donc, il s'agissait vraiment de repenser l'art musical complètement et de l'ouvrir, alors de l'étendre au son-bruit, hein. Non pas seulement au bruit, mais au son-bruit, et cela devait entraîner la révolution complète de l'art musical. Alors le problème, c'est que ils ont construit ces machines qui sont très, très pauvres en vérité, hein, comparées aux machines électroniques qui ont commencé à apparaître à la même époque, je pense notamment au téléharmonique de Cahill. Très pauvres, et ils faisaient des concerts où ces sons, ces bruits étaient censés accompagner des orchestres. Donc on a des exemples de musique tonale accompagnant ou parasitant des bruits produits par ces intonarumori. Donc en guise de révolution musicale, on a en fait une sorte de collage abrupt, non synthétique, entre de la musique, de la soap musique et des bruits. Donc pour que la révolution réussisse, il faut être plus ambitieux et plus radical. Alors ce qu'a été Pierre Schaeffer, donc Nicolas évoqué, hein, fondateur de la musique concrète, qui, alors c'est difficile de résumer si rapidement son travail, mais disons qu'il a accompagné sa pratique de compositeur d'un véritable travail théorique extrêmement important. En fait, il tente véritablement, pour repenser la musique, de changer complètement l'idée même de son. Voilà. Donc il produit une idée, un concept, hein, l'objet sonore ou l'objet musical qui englobe en vérité, qui recouvre tous les sons, qu'ils soient musicaux ou non musicaux. Et pour faire cela, évidemment, il est obligé d'inventer un nouveau protocole, un procédé qu'il appelait l'écoute réduite, où il s'agit de délier le son de sa source et de son sens, donc de sa source extérieure objectale et de son sens musical, par exemple, pour l'envisager dans sa matérialité immanente, hein, dans son immanence auditive, si vous voulez. Et ce qui lui permet de le décrire tout à fait autrement, en termes, non pas de hauteur, d'intensité, mais de grain, d'allure, de timbre harmonique, d'épaisseur, etc. Et la conséquence de cela, ce fut pour lui une nouvelle musique, la musique concrète, et un nouveau solfège. Véritablement. Alors, le solfège des objets sonores. Donc, il faudrait que je puisse revenir à l'île au bruit pour vous faire écouter l'étude aux casseroles, puisque en 1948, dans le fameux studio d'essai de la radiodiffusion rue de l'Université, Pierre Schaeffer donc, compose des études de bruit. Il faudrait bien capter le. Et notamment une étude aux casseroles. Tout à fait merveilleuse. L'idée, là, c'est de faire disparaître la casserole, en fait, hein, comme un magicien, comme un prestidigitateur musical. Pierre Schaeffer fait disparaître la casserole, puisque en travaillant sur un son de casserole, en le modifiant, en l'inversant, en le bouclant sur lui-même grâce au fameux sillon fermé, en coupant les attaques, il peut en faire un son qui ne se réfère plus à l'objet casserole, ni à un quelconque univers musical. Il ne s'agit pas de faire sonner la casserole, mais de découvrir en elle, à travers elle, un objet sonore qu'on pourra ensuite classer, décrire, et avec lequel d'autres œuvres pourront être composées. Donc, comme la porte de Pierre-Henri, hein, dans cette variation pour une porte et un soupir, mais bien avant lui, Pierre Schaeffer fait surgir et disparaître la casserole. Alors, vous voyez, donc là, le problème, c'est que le son est inclus et digéré, mais il disparaît. Enfin, le bruit, je veux dire, le bruit est inclus et digéré par ces musiques qui se réinventent, mais il disparaît, il devient objet sonore. Bon. Et maintenant, essayons d'imaginer un bruit qui résisterait, qui ne disparaîtrait pas. Ce serait mon deuxième problème, hein, celui de la traumatique. Et donc là, le bruit désignerait non pas ces objets à inclure, ces sons à inclure, mais ces sensations auditives désagréables ou déplaisantes, voire insupportables, dont les musiciens vont user pour choquer l'auditeur. Alors au sens, non pas moral évidemment, du choc, mais au sens des chocs physiques et psychiques. Il s'agit vraiment d'agresser les auditeurs et l'esthétique ici devient une traumatique, si on peut dire. Il faudrait penser une traumatique. Alors, les musiciens au cours du XXe siècle ont beaucoup tenté cela, à différentes fins, dans différents buts. Il y a par exemple Il s'agit de réveiller les consciences assoupies ou endormies, de créer un choc, un talent qui éveille un peu, voire de communiquer une énergie qui pourrait mener à la révolte ou à la rébellion. Bon, ça, je pense notamment à Atari Teenage Riot, un groupe qui voulait déployer une énergie telle qu'il imaginait les auditeurs sortant de la salle et aller se battre contre alors là, les néo-nazis, en l'occurrence, en Allemagne. On peut aussi imaginer que le but était de rendre audible une violence que nos sociétés dissimulent ou masquent. À la limite, peu importe le but, ce qui est intéressant, c'est justement ce travail, cette esthétique de l'effet, de l'affect. Le son n'est pas étudié ou travaillé en lui-même, mais dans sa capacité à marquer, à choquer, à transformer, à agir, à affecter, jusqu'à une certaine limite, quoi, à la frontière du supportable. Donc, à cette fin, j'aimerais vous faire écouter donc un morceau particulièrement pénible, qui n'est pas d'ailleurs dans Archipel, un morceau d'un duo qui s'appelle Chlorgeschlecht. Alors, je pense qu'on pourrait appeler ça, on appelle ça, disons, communément, du grain-corps digital. Voilà. Alors, c'est très court, mais c'est assez traumatique. Bon, ça s'écoute fort en même temps. Oui, donc la traumatique ici vient de contraste entre le silence total, hein, que quelques glitches parcourent, et puis cette éruption de son au volume extrême, très aigu. En concert, c'est assez étonnant, puisqu'il crie littéralement sur scène, hein, dans les micros. Alors, j'en viens à mon troisième problème. Vous voyez, l'autre problème que pose cette musique, c'est que il ne suffit pas d'être bruyant. Qu'est-ce qu'il faut pour être bruitiste, véritablement, pour cesser d'être seulement bruyant, mais être également bruitiste, c'est-à-dire pour composer le bruit sans l'inclure, justement, sans le réduire, pour maintenir le bruit dans son irréductibilité, sa solidité, si vous voulez, infrangible, tout en le composant. Voilà. Ce serait ça la question posée au bruitiste. Et là, le bruit, en ce sens, désignerait tout ce qui vient parasiter, voire brouiller un signal, c'est un autre sens classique du bruit, autrement dit empêcher la transmission de l'information qu'il transmet, qu'il contient. Et je dois dire que le parasitage était un des moyens utilisés par les musiciens du choc, saturer et distordre le son, notamment les guitares électriques. Beaucoup de musiciens qui veulent affecter l'auditeur ont utilisé ces techniques et ces méthodes. Mais je pense qu'au fond, le problème est différent. Car ce que cherchent à faire ces artistes-là, c'est à faire affleurer un fond, si vous voulez. Alors, un bruit de fond. Et le bruit de fond, en ce sens, assez nouveau, je pense, c'est à la fois ce qui menace le son, donc la surface sonore, et en même temps ce qui la rend possible. Donc, il s'agirait d'explorer les profondeurs, vous voyez, même si ça doit entraîner la faillite de la surface, hein, mitrailler la surface depuis les profondeurs jusqu'à éventuellement la déchirer. Alors, ce serait ça l'idée. Quel degré de bruit, de fond, la surface peut supporter. Il y a un très beau texte de Deleuze comme ça dans Logique du sens, où il y a une citation à la fin d'un texte très belle qui dit « Mitraillage de la surface pour transmuer le poignardement des corps aux psychédélies ». Extraordinaire, ça. Un hommage à la psychédélie. Et je pense que cette idée-là de la pop, si vous voulez, comme fondée ou effondée par le bruit, c'est quelque chose de très psychédélique. Ce qui fonde la musique, c'est le bruit, et la pop menace de s'y effondrer tout le temps. Dans les Beatles, il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple. Alors, exemple absolument pour moi parfait de cette situation, c'est évidemment un morceau des Throbbing Gristles, cet extraordinaire groupe qui a inventé la musique industrielle contre l'industrie musicale, un groupe de performeurs du Yorkshire qui font de la musique performative véritablement. Et là, c'est extrait d'un disque qui date de 77, le morceau est Slug Bait. Et vous allez voir comment la voix est littéralement submergée par le fond. Slug Bait. C'est pas vraiment le lieu d'écouter ça, malheureusement, et on n'a pas le temps. C'est l'histoire d'un massacre, en fait. C'est un narrateur qui raconte à la première personne comment il a massacré un couple dans leur maison, dans leur résidence. Et le fond, ce sont les bruits, là. Ce sont les cuts, les effets de montage, les bruits de machine qui littéralement entourent la voix, ce qu'elle raconte, et les actes qu'elle dit avoir commis. Alors, je finirai par la deuxième figure possible de ce rapport au fond, qui serait celui d'une sorte d'idiotie instrumentale. Une autre manière, si vous voulez, de faire surgir le bruit dans son irréductibilité. Donc, beaucoup de musiciens ont fait ça, alors depuis 20 ou 30 ans, notamment les musiciens japonais, mais aussi allemands. Ils mettent au jour, si vous voulez, les sons rémanents des instruments et des machines. Alors, évidemment, il y a eu les feedbacks de guitare électrique, on pense à Metal Machine Music de Lou Reed, mais qui est déjà un disque trop composé. On sent que Lou Reed veut jouer le génie expérimental dans ce disque. Alors que les musiciens dont je parle sont vraiment idiots, enfin, ils rendent les machines idiotes, et donc ils participent à l'idiotie machinique, par exemple en jouant de tas de mixage sans entrée ni sortie, en jouant de sampleur sans sample, de platine sans vinyle, et en faisant dysfonctionner, en rendant idiotique, littéralement singulière, ces machines génériques, en fait en série, ils font apparaître le bruit comme ce qui reste en elles de singulier, comme ce qui reste quand leur fonctionnalité fonctionne à vide, en quelque sorte, quand elles dysfonctionnent à vide. Bon. Et alors là, on peut penser à Sachi Kohem, à Nakamura, à Yoshihide, mais je voudrais plutôt vous faire entendre un morceau de Peter Rehberg, qui est un très grand musicien autrichien, dont la plupart des disques sont sortis sur le label Mego. Et là, il a fait un duo avec Bauer, sur un disque qui s'appelle Past. Le morceau est vraiment étonnant. Il s'appelle Nix Null. Il faut trouver le bon triangle. En fait, c'est pervers, vraiment. Ça rend fou, ça, en fait. On dirait le début du Polytop de Cluny, c'est formidable. Alors, c'est vraiment le glitch contre le clic, parce que je vois que Pierre, tu as quelque chose contre les clics, et bien effectivement, dire que les click and cut, c'est une manière de réifier le glitch informatique, donc le dysfonctionnement digital que donc Mego et Rehberg mettent ici en valeur. Voilà, donc inclusion, traumatique et parasitage, une très très brève histoire du bruit grâce à Archipel.
Voilà, je crois qu'on est resté dans le temps.
Est-ce qu'il y a Question.
Est-ce qu'il y a des questions concernant Archipel ou les propositions de Nicolas Donin ou de Bastien Gallet?
Non, le site n'est pas encore ouvert. Le 18 novembre.
Mais à la BPI, vous pouvez donc consulter cette. Donc
pour moi, c'est une exclusivité BPI. Il faut venir ici pour l'écouter en entier. Donc je crois qu'il y a deux axes importants, dans ce, notamment ce que Nicolas disait dans le proche, c'est que. Il disait, mais quand on circule là-dedans, on a l'impression, comme la chronologie n'est pas mise en évidence dans la classification, on a l'impression que tout est de la même époque, tout fonctionne en même temps. Et je crois que là, indirectement, ça revient un peu à ce que je disais en introduction, cette zone d'où surgit le vivant. Et alors, dans ce que Bastien Gallet a développé, c'est tout ce questionnement en permanence que le bruit permet de faire sur la musique. Je crois que c'est quand même deux axes importants. Vous n'avez pas de réaction par rapport au triangle? Ça devrait aller plus vite, plus lentement.
C'est juste pour savoir si l'interface des triangles est faite en HTML ou en Flash.
Ça, monsieur.
Non, c'est pour savoir si on peut joindre ce site, par exemple, sur un iPhone. Ou, parce que si c'est fait avec du flash, personne ne pourra les voir avec un iPhone.
Je pense que c'est développé en open source et je pense que ce sera possible. Je vais prendre note de votre coordonnée, j'enverrai toutes les informations précises.
Bon, de toute façon, on verra bien.
Oui, on a pensé à développement iPhone, mais on a une structure qui n'avons pas énormément de millionnaires derrière nous. Donc
non, mais c'est la problématique, oui, d'avoir sur un site des objets qui bougent comme ça et de leur possibilité d'être vus par différentes plateformes.
Bien sûr, je comprends bien.
Voilà, d'accord.
Est-ce qu'il y a un réseau de médiathèques en Belgique qui a accès à ça, mais dans les médiathèques?
Oui.
Vous voulez dire, ou c'est juste une exclusivité pour la BPI et puis il n'y a pas de
médiathèque? Pour le moment, ce n'est qu'à la BPI. Mais la médiathèque en Communauté française, c'est un réseau de médiathèques, mais c'est une seule association. Et donc, on va développer, on va lancer l'implantation le 18-19 novembre avec d'abord une présence dans un musée d'art moderne tout près de Mons, le Max. Et on va placer les meubles que vous avez ici, mais rendre aussi les collections physiques disponibles, ouvrir le site et former tout le personnel à la médiation. Parce que c'est un peu l'expérience qu'on a pu faire ici avec l'implantation de la BPI. Ce type d'interface mis dans un lieu public, s'il n'y a pas quelqu'un autour qui peut venir expliquer, dialoguer... Il ne faut pas être savant musicologue, il faut parler, expliquer simplement. Il faut ramener aussi la relation à la musique à des choses assez simples, mais il faut une médiation. Donc oui, il y a ça en Belgique et on s'y emploie.
C'est voué à devenir un outil de médiation dans des lieux
publics. Tout à fait.
Une dernière question?
Oui, d'abord un grand merci, parce que pour moi c'est du caviar, les gros grains noirs c'est comme du caviar, et sinon oui, j'ai un peu pratiqué donc la BPI, et vous parlez au début qu'il y a des images aussi, et par contre j'en ai pas trouvé trace en navigant.
Non, effectivement, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à l'intervention de Nicolas Donin, les images ne sont pas encore là, ça pose d'autres problèmes de droit, mais en principe, dans Archipel, en plus de la musique, il y a la poésie sonore, mais aussi tout le cinéma expérimental. Et donc, c'est un développement qui viendra quand on aura résolu le problème de droit. Il y a en principe beaucoup de DVD qui sont prêts à rentrer là-dedans. Ça va venir. je crois, peut-être bon de passer au clou, voilà, la partie principale de la soirée.
Merci Christophe. Hello, hello. Non, moi, je pense que la chose principale de cette soirée s'est déroulée. Comment ? Et mes amis et moi-même, qui allons vous faire un petit peu de musique, en avons bien profité. Parce que c'est vrai que, alors, pour parler de moi, mon domaine expérimental, naturellement, m'a habité très, très tôt. Dans une lessiveuse, quand j'avais 8 ou 9 ans, on recherche justement de bruit, de son. Donc, attiré par l'inconnu. Voilà, donc, si je suis là aujourd'hui, je suis quand même passé par des longs moments, une longue route du plaisir, de toujours avancer tout au long de ces années, en passant par toute cette technologie que j'ai pu rencontrer. Je crois que j'ai enregistré ma voix pour la première fois sur un magnétophone à fil magnétique. Donc j'avais vraiment ça dans la peau. Voilà. C'est juste pour vous expliquer pourquoi la musique est ma passion chérie dans tous les domaines. Mon domaine expérimental à moi est démarre. Naturellement, je ne connais pas les notes, pas la musique, donc uniquement de l'émotion et de l'instinct. C'est-à-dire d'un vieux piano que j'avais dans un grenier chez moi et que j'ai eu envie de démonter parce que je n'avais pas du tout envie d'appuyer sur les notes. J'avais plutôt envie de m'allonger dessous. Ce qui était très lourd d'ailleurs. Et ensuite, petit à petit, en passant par la rencontre avec ce qui a touché mon émotion de très près, c'est-à-dire le blues, j'ai surtout pas voulu imiter ces blacks magnifiques qui savent si bien me faire vibrer avec rien et avec tout en même temps, pour arriver doucement, doucement sur cette route du plaisir, comme je l'ai dit, à m'absenter, non pas pour rechercher, juste pour aller toucher d'autres passions qui ont nourri mes émotions et qui m'ont... Je parle aussi de la technologie, des instruments qui sont arrivés petit à petit, mélangés à ma vibration intérieure et personnelle et différente. Je pense que la différence est aussi une forme, une très belle nuance sonore. Voilà, donc j'ai adoré le silence et j'ai adoré le bruit. Et à chaque instant, j'ai aimé quitter parce que je n'ai pas du tout fréquenté en fait de très près le showbiz. J'étais plutôt ailleurs, dans d'autres arts qui m'intéressaient et qui me touchaient et qui me faisaient, qui déclenchaient toujours des choses, parce que la chanson, comme je fais, est un support musical avant tout. Ensuite, des mots qu'on pose dessus, comme pour écrire un petit court-métrage, quelque chose comme ça. Voilà, c'est mon monde. Et justement, pour parler de l'expérimental, l'expérimental est quelque chose que, effectivement, qui me touche. Des gens comme Schaeffer m'ont donné envie de comment... Pas donné envie, d'ailleurs, ont bougé des choses parfois et qui m'ont fait aller quelque part. Je ne sais pas si c'est le but. Moi, je l'ai pris comme ça. Et puis, petit à petit, ma musique a tourné. Je me suis enfermé chez moi pour la vivre plus fort, comme une grande histoire d'amour. Voilà. Elle est simple, en fait, en même temps, mais Voilà, elle part de cette touche, le piano, pour aller effectivement vers l'écoute. L'écoute, des choses provoquées qui font qu'après, elle dégage quelque chose de moi. Voilà, ce soir, ce qu'on va vous faire, c'est rien de... C'est juste une rencontre, parce que d'abord j'ai eu le plaisir de commencer. Je suis là, c'est quelque part, des gens ressentent ma profondeur et non pas le réalisme qu'on connaît de moi. Il y en a qui vont plus loin, et en fait c'est le but de cette musique. Pas de celle qu'on va faire, mais de cette musique pour laquelle vous êtes là, je pense, avec ces gens qui savent si bien en parler. Voilà, quoi. Hein, nous, voilà, il y a une chose qu'il faut que je vous dise aussi. Bon, c'est très important pour moi, parce que comme je suis un touche-à-tout et que je ne connais rien, effectivement, je peux jouer maintenant ce que j'ai découvert. J'ai toujours aimé, par contre, les instruments qui sonnaient bien. Voilà. Donc, pour que je puisse avoir envie, il faut déjà que l'instrument soit très de haut niveau. C'est pour ça que j'ai des pianos qui m'inspirent chez moi. Voilà, des vieilleries, des tas de choses, des verres en cristal, des choses comme ça, voyez-vous. Mais je n'ai rien inventé. Je suis juste là pour d'abord remercier Alexandre et être au milieu de vous et peut-être vous faire découvrir quelque chose de moi et de mes copains, parce que je ne suis pas tout seul. Rien n'a été travaillé, parce que pour moi, l'expérimental, c'est l'inconnu. Et c'est vrai que j'ai toujours traîné comme ça quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, et que je faisais du blues sur la pointe des pieds, et que je chantais dans des endroits comme le Kentucky, enfin Saint-Germain, je traînais beaucoup, bien sûr, avec tous ces gens passionnés du son. Et effectivement, qui déjà, à l'époque, avec une trompette, créaient des choses expérimentales. Voilà, bon... je ne vais pas faire 3 heures, parce que je pense que le piano, ce que je vais faire au piano est pour moi quelque chose d'inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert le piano il y a 2 ans avec un piano que j'ai acheté, un piano autrichien de 1911. Et ce piano m'a plu. Donc il m'a donné envie d'essayer de jouer du piano. Alors que j'étais effectivement beaucoup plus concentré et beaucoup plus attiré par les synthétiseurs, par la phase sonore. Et, voilà. Et donc le piano est quelque chose de plus... C'est un instrument où je joue à vue d'abord. Donc quand j'imagine un son dans ma tête, il faut déjà que j'appuie sur la bonne note. Mais je pense que les failles font partie aussi de l'expérimental. Et donc, vive la faille.
Tu veux que je te pose une question ou pas ?
Avec plaisir. Mais bon...
Une.
Ok.
Archipel, c'est une bouffée d'air, en fait. T'as vu, toi qui n'aimes pas, comme beaucoup de gens, les classifications. Tu vois, et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on voyage d'une œuvre à une autre avec une autre signification, avec un autre lien. Est-ce que toi, tu serais un utilisateur potentiel de ce genre de...
Ce que j'ai vu, les clics sur, effectivement, comme disait une personne tout à l'heure, le caviar, et écouter... ces gens, et moi j'aime la différence, donc j'aime pas, j'ai jamais aimé apprendre, j'aime écouter les autres, j'aime pas trop parler, c'est vrai. Là, j'ai parlé un peu comme ça parce que certainement, bon, je me sentais bien peut-être, ou il fallait quand même que je vous raconte un peu. Parce que c'est vrai, bon, voilà, mais je prends beaucoup de plaisir, effectivement, à écouter. D'abord, l'IRCAM, c'est un endroit que j'aime et où j'ai eu l'occasion d'aller deux ou trois fois par curiosité, parce que la curiosité fait aussi partie de mon intérieur. Voilà. Donc, voilà, l'IRCAM, monsieur l'historien, comment. Voilà, il y a des gens. Bah sinon, si ça ne plaît pas, bah je m'en vais, quoi. C'est vrai. Hein, quand ça ne nous plaît pas, on s'en va, quoi. Discrètement. Mais on part, quoi. Voilà. Mais c'était. Non, c'est. Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose. Bien sûr. J'ai toujours été. Dans les années 68, 69, quand sont arrivés les premières machines, j'étais passionné par la synthèse, bien sûr, parce que c'est ma vraie palette sonore à mon niveau, bien sûr, avec et sans vouloir, je suis plutôt bien dans comment dans ma route musicale, je me sens plutôt bien. Voilà, aujourd'hui, je fais pas ça comme un métier, je suis inconscient. Et par contre, j'ai toujours la passion. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai la passion et surtout de rentrer dans un nouvel album parce que voilà, je suis quand même un petit peu dans un schéma, quoi. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Ce qui compte pour moi, c'est effectivement que chaque album soit comme un nouveau film des grands. Voilà, quoi. Voilà.
Merci, Christophe.
Merci.
Merci beaucoup. Christophe au piano, Christophe Van Nurfeld, donc aussi du groupe Tanger. Donc, plus du groupe Tanger. C'est fini le groupe Tanger. D'accord. Et puis Stéphane, voilà, qui a fait un duo avec Mike Tyson, mais ça.